L'écoute de nos programmes, il est 13h à Yaoundé. Le journal est une signature de Marie-Françoise Ehoulo.
Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au 13h. Climat, les décades se suivent et se ressemblent ce mois d'octobre au Cameroun. Pluie, inondations, éboulements sont le lot quotidien de la plupart des régions de notre pays, une résultante du réchauffement planétaire qui fait de 2024 l'année de tous les extrêmes climatiques depuis plus de 100 ans. Dans le 13h, les tendances de cette décade au Cameroun et la vision globale du réchauffement de notre planète. La vue, c'est la vie, a-t-on coutume de dire. Les yeux, organes parmi les plus importants du corps humain, nous protègent mieux du danger. Ils sont donc célébrés ce 10 octobre, journée mondiale de la vue. Une campagne de dépistage et de sensibilisation s'ouvre dès ce jour jusqu'au 19 octobre. Une veille organisée par les acteurs afin de montrer à la population l'importance de faire contrôler régulièrement sa vue. Dans le 13h, les explications d'un ophtalmologiste. Éliminatoire de la CAN Maroc 2025, les hostilités reprennent ce jeudi avec les rencontres de la troisième journée. Le Cameroun et le Kenya donnent rendez-vous au public dès 17h demain vendredi au stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé. Et comme de tradition, la séance officielle de reconnaissance de l'ère de jeu et les conférences de presse d'avant-match sont au programme des deux équipes ce jeudi. Modernisation du système des marchés publics, bientôt la généralisation de l'utilisation de la plateforme informatique OLEPS, entendez Cameroun Online e-Procurement System, dans les procédures de passation, de suivi et d'exécution des marchés. Le ministre délégué à la présidence chargée des marchés publics a lancé ce matin à Yaoundé la campagne nationale de vulgarisation, de sensibilisation et de formation des acteurs du secteur. L'ambition est d'atteindre 90% de marchés passés par voie électronique dès janvier 2025. Toussaint Bemagna.
Jusqu'ici, seuls 11 départements ministériels maîtres d'ouvrage ont adhéré à la plateforme COLEPS, Cameroun Online e-Procurement System, pour passer, suivre et exécuter les marchés publics. En 2024, il était question de faire passer exclusivement par voie électronique au moins 80% de marchés du secteur des infrastructures, de la santé et de l'éducation. L'objectif n'étant sensiblement pas atteint, la nécessité de vulgariser, de sensibiliser davantage et de former les acteurs du secteur des marchés s'est avéré nécessaire. D'où cette campagne lancée par le ministre délégué à la présidence chargé des marchés publics, Ibrahim Talba Mala. L'on vise désormais 24 départements ministériels et 90% de contrats passés en ligne. Il est donc demandé aux maîtres d'ouvrage, à leurs chefs de structure interne de gestion de marché et aux contrôleurs externes du ministère des marchés publics de s'approprier cet outil novateur qui, après la finalisation des deux premières phases du projet, devrait permettre d'assurer le suivi, la passation, l'exécution et le contrôle des marchés à travers le guichet unique COLEPS, une application informatique fruit de la coopération Cameroun-Corée. Le système COLEPS est appelé à se généraliser pour garantir la traçabilité et la fiabilité dans les procédures des marchés publics, valoriser la bonne gouvernance et lutter en fin de compte contre la corruption dans le secteur des marchés publics.
De fortes averses orageuses sont annoncées sur l'ensemble du territoire national durant les prochaines semaines du mois d'octobre. C'est l'une des prévisions du bulletin climatique de la deuxième décade d'octobre élaboré par l'Observatoire national sur les changements climatiques, en abrégé ONAC. Le rapport météorologique annonce aussi des risques de débordement des sols dans les zones soudano-sahéliennes déjà saturées par les eaux. Coralie Laetitia Imini.
L'Observatoire national sur les changements climatiques tire la sonnette d'alarme face aux prévisions climatiques de cette deuxième décade du mois d'octobre. La période allant du 11 au 20 octobre sera marquée par la poursuite de la grande saison des pluies dans la majorité des régions, à l'exception du nord et de l'extrême nord, où la saison des pluies touche progressivement à sa fin. Le rapport de l'ONAC met en garde contre de forts risques d'inondations dans plusieurs localités du Grand Sud et de la zone soudano-sahélienne. Les départements du Logone et Chari, du Mayo-Danaï, sont particulièrement exposés en raison de la saturation des sols et du débordement des eaux du Logone. Des destructions d'infrastructures, de franchissements tels que les buses, les ponts, les routes sont également à craindre dans les régions des hauts plateaux, des hautes savanes guinéennes et certaines zones forestières. En outre, les départements de la Ménois, des Bambotos, du Lébialem, de la Menchoum et du Boyo pourraient être touchés par des glissements de terrain dû à la saturation des sols en eau. Les experts appellent ainsi à la vigilance et à la mobilisation pour prévenir les conséquences de ces conditions climatiques extrêmes sur les infrastructures et la sécurité des populations.
La région de l'Ouest est située sur des hauts plateaux de haute terre, présente actuellement des risques de catastrophe dans au moins 5 des 8 départements. Avec les changements climatiques et les constructions dans les zones à risque, les populations fortement exposées en subissent déjà les conséquences et des centaines de familles ont quitté leurs habitations dans la Ménois et le Onkam. Face à cette situation devenue critique, les autorités sensibilisent les populations afin qu'elles cessent de s'installer dans les zones interdites de construction. Voici le reportage d'Emmanuel Kolokou, CRTV Ouest.
Le département de la MIFI connaît toujours des risques de catastrophe après le malheureux incident de Ngouache il y a 5 ans. Dans le Onkam, les villages autour du fleuve Ngoum sont quasiment tous inondés. Selon le délégué régional en charge de l'environnement à l'ouest, Étienne Guégan, la situation est critique.
Que ce soit dans le Onkam, dans les Bambutos, dans la Menoua, on a des zones de très fortes pentes. Même dans la MIFI, dans tous les départements, il y a des zones à risque. Si les gens ont déjà construit sur des terrains qui présentent des risques élevés d'éboulement, le seul conseil actuel, c'est d'éviter de dormir dans ces maisons pendant toute cette période.
Pour faire face à la situation, la délégation régionale en charge de l'habitat, chapeautée par Françoise Ebazé, dresse la cartographie de la région en collaboration avec les communes afin de déguerpir les populations construites sur des zones interdites.
Nous avons fait une localisation sommaire et non détaillée des zones à risque.
Lors de sa récente descente sur le terrain en Bandoum, le gouverneur Awafonka Augustine a appelé les populations à la prudence au vu des prévisions météorologiques.
Chaque fois qu'ils reçoivent des informations de l'ONAC ou de la direction de la météorologie qui prennent ça au sérieux. Nous ne sommes pas encore à l'abri de tout ce qui se passe.
La région de l'Ouest reste permanemment arrosée et au moins 5 des 8 départements présentent des risques de catastrophe. Bafoussam, Emmanuel Kolokou, CIATV.
Dans la région de l'extrême nord, les sites de recasement des sinistrés, des inondations sont eux aussi à leur tour envahis par des eaux. Les pluies diluviennes enregistrées ces derniers jours ont fait d'énormes dégâts dans ces lieux aménagés pour accueillir les victimes des inondations. Une situation difficile pour les occupants de ces camps. Adamo Moussa, CIATV extrême nord.
C'est un véritable calvaire que vivent les populations installées au camp des sinistrés des inondations à Ouro-Daban. Les eaux qui ont débordé se sont introduites sur ce site de recasement, rendant le quotidien de ses occupants encore plus difficile.
Les routes sont inondées, nous ne savons où aller.
Tous nos matériels sont dans l'eau, on est en train de faire sauter, d'autres on a laissé ça dedans.
Il y a ceux qui ont trouvé là où ils peuvent s'abriter, d'autres aussi sont là sur la route.
L'accès également est très difficile, les volontaires sont en train parfois de patauger dans l'eau.
Même constat dans la localité de Gorey, dans le Logone et Chari. Le site aménagé pour accueillir les victimes des inondations est envahi par des eaux.
L'eau a pris sur toutes les maisons et les batailles.
Les inondations ont emporté beaucoup de choses.
Les autorités locales et les organisations humanitaires se déploient dans ce site pour alléger la souffrance des populations. Mohamed Ibrahim, maire de Ouaza.
Nous voulons déplacer les populations parce que toutes les terres fermes maintenant sont inondées pour les amener à Ouaza pour les installer. Et ça là, ça demande les tentes.
Les services de météorologie annonce dans les prochains jours d'autres pluies diluviennes, ce qui contraint ces derniers jours les autorités locales à identifier d'autres sites de recasement pour permettre à la population d'être à l'abri de ces inondations. Marwa Adamu Moussa, CRTV.
Changement climatique, un phénomène mondial. 2024 pourrait d'ailleurs être l'année de tous les records, mettant notre planète au bord du gouffre. Aucun continent n'est plus épargné par les phénomènes météorologiques extrêmes. Les catastrophes climatiques s'abattent partout avec une intensité et une violence inouïe, faisant prévaloir une réelle justice climatique entre les pays du Sud et ceux du Nord. Plus que jamais, les bouleversements du climat impactent la vie de milliards de personnes à travers le monde. Lynn René Batongué.
Sécheresse, inondations, canicules, incendies de forêt, etc. Aucun continent n'est épargné par les conséquences du changement climatique aujourd'hui. Si 2023 avait battu des records de température, l'année 2024 ne semble pas échapper à la règle. Le mois de juin a été le plus chaud jamais enregistré dans le monde et le 22 juillet 2024, la journée la plus chaude depuis plus de 100 ans. Un véritable record. De fortes canicules ont touché la Chine, l'Inde, le Mexique, la Grèce ou encore l'Arabie Saoudite. L'Amazonie et le Congo, poumon de la planète, ont également subi une vague de sécheresse. Ces deux derniers mois, la température à l'échelle mondiale est en moyenne plus haute de 1,64 degrés Celsius par rapport à l'ère pré-industrielle. Les impacts d'une telle augmentation se font déjà sentir sur la planète et ne sont pas sans conséquences. Alors même que des vagues de chaleur ont frappé de plein fouet plusieurs pays, des inondations et des pluies torrentielles ont simultanément ravagé de nombreuses régions du monde. C'est le cas au sud du Brésil, en Indonésie, en France, en Italie, au Kenya et dans tout le golfe de Guinée où se trouve le Cameroun. À travers le monde, des centaines de personnes ont dû quitter leur foyer suite à des inondations. Dans les régions déjà touchées par la pauvreté, où de nombreuses familles vivent de l'agriculture, la situation est encore plus grave. Les effets néfastes du changement climatique menacent leur rendement et aggravent par conséquent l'insécurité alimentaire et la malnutrition.
Vous écoutez le 13h, il est 13h passé de 12 minutes à Yaoundé. L'état des blessés de l'accident mortel sur la route Yaoundé-Sambélima d'hier, référé à l'hôpital de district et à l'hôpital de référence de Sambélima, est stable. Le constat vient d'être fait par le ministre de l'administration territoriale, Paula Tanganji, qui est parti transmettre le message de réconfort du couple présidentiel aux accidentés. Il est accompagné du ministre des Finances, Louis-Paul Motazé. Retrouvons à Sambélima l'envoyé spécial de la CRTV, Constance Zeux. Bonjour Constant.
Bonjour Marie-Françoise. C'est par le lieu du drame, à Combi, que la descente sur le terrain des membres du gouvernement débute à Sambélima. Une paire de tennis et des débris de véhicules rappellent le sinistre de mercredi. Le ministre de l'administration territoriale et le ministre des Finances, sans voix, se font expliquer les circonstances de l'accident mortel. Le virage où 15 personnes ont perdu la vie est accidentogène. Pas un mois sans accident, selon le préfet du Dja-et-Lobo, Damien Owono. Des ralentisseurs y sont désormais plus que nécessaires. Puis direction, le peloton routier motorisé où les carcasses du car de Galaxy Voyage et de la semi-remorque totalement endommagée ont été parquées pour des enquêtes. Paul Atanganji et Louis-Paul Motazé se rendent par la suite à l'hôpital des districts de Sambélima où trois blessés d'une même famille sont sous observation. Des miraculés, dont un bébé de 8 mois et sa maman de 19 ans, au sourire rassurant. À l'hôpital de référence de Sambélima se trouvent 5 blessés. L'état des 8 blessés au total, selon les responsables de ces hôpitaux, est stable. Leur vie n'est pas en danger. 5 autres blessés avec des traumatismes sérieux ont été référés dans des hôpitaux de Yaoundé. À tous les blessés visités ce jeudi, le ministre de l'administration territoriale, Paul Atanganji, a apporté le message et les encouragements du couple présidentiel, toujours proche des Camerounais en difficulté. Les deux membres du gouvernement sont toujours en ce moment auprès des blessés. Sambélima, Constance Zeux, CRTV.
Télécommunications, joindre un interlocuteur par appel téléphonique, par SMS ou via Internet à Douala relève depuis quelque temps d'un exploit. Il en est de même pour le téléchargement des données électroniques en cause des perturbations sur le réseau de télécommunications. La qualité de la connexion est jugée approximative par les consommateurs. Au-delà des frustrations, cette situation impacte considérablement les activités économiques. Voici le reportage de José Gaëtan Tsanga, CRTV Littoral.
Allô, s'il vous plaît, veuillez parler de façon un peu plus audible.
Pas la peine de crier ni de s'emporter.
Le réseau est brouillé. Il faut peut-être réessayer. C'est la recette magique pour communiquer ces derniers temps.
Il y a beaucoup d'interférences. Autant mieux fournir un service de qualité, même si le prix est un peu élevé. Ça peut créer beaucoup de problèmes au foyer, dans les business, dans les affaires. On a essayé de rejoindre.
Le scénario est d'autant plus embêtant qu'à la fin, la facture est salée. Plus d'unités pour appeler, vous êtes coincé.
On nous a abandonné dans ce secteur-là. Tu changes le téléphone, après il n'y a plus le réseau. Après ton crédit est fini, on dépend toi en crédit. Tu mets 1000 francs, tu ne peux pas faire appel peut-être à 10 personnes. Là, c'est fait.
Quand Internet s'en mêle, tout devient morose. Contenu difficile à télécharger, recharge de crédit vite épuisée, c'est l'impasse.
On te coupe le crédit, donc c'est des gens qui font revoir les politiques. Moi, par exemple, je mets 20 000 francs pour surfer, ça ne fait pas une journée. Donc avant, il n'y avait pas ça.
Les petites entreprises paient le prix fort. Didier Dengue, propriétaire d'une start-up dans le digital.
Il y a des insuffisances qui sont constatées. Tout récemment, on a acheté un modem, on s'est connecté à un réseau qui ne nous a pas donné satisfaction. On était obligé de faire recours à d'autres réseaux, donc on essaie un peu de jongler.
C'est la galère, mais à quand la fin? Douala, José Gaëtan Tianga, CR TV.
L'amélioration de la qualité des réseaux de télécommunication est une préoccupation de tous les instants pour le gouvernement. Et c'est tout l'objet de la visite de travail ce jeudi du ministre des Postes et Télécommunications à Douala. Minette Libom Lilikeng rencontre en ce moment les responsables d'Orange et MTN Cameroun pour évaluer les engagements pris après les concertations de mai 2023 portant sur l'amélioration de la qualité des communications électroniques. Dans sa suite, notre reporter Flore Coulet nous donne le pouls de la journée.
S'agréser à l'autre bout du fil, on a du mal à s'entendre. Depuis quelques jours, c'est le quotidien des Camerounais. Les communications téléphoniques sont très perturbées. Occasion idoine pour la ministre des Postes et Télécommunications de marquer un arrêt à Douala. Objectif, évaluer l'état des engagements pris par les opérateurs de téléphonie mobile Orange et MTN après les concertations de mai 2023. Le déplacement de Douala permet à Minel Libom Lilikeng, ministre des Postes et Télécommunications, de toucher du doigt les avancées apportées par les différents opérateurs pour l'amélioration de la qualité des communications électroniques. La ministre, accompagnée par le gouverneur et son état-major, se sont rendus à la direction générale de MTN Cameroun, où le nouveau dispositif de la relation client a été présenté à Madame le ministre par les responsables de cette société de téléphonie mobile. La ministre a émis quelques réserves face à ce nouvel outil, tout en apportant des suggestions qui vont dans l'amélioration des réseaux de télécommunications. S'en est suivi un huis clos entre la ministre et les responsables de cette société, puis un arrêt sur le site des installations techniques pour voir le déroulé du monitoring réseau, dont l'après-midi la délégation se rendra du côté d'Orange Cameroun pour la suite de cette visite de travail. Le quartier commercial de Douala Akwa, Flore Coulet pour le 13h.
En santé, ce jeudi 10 octobre est journée mondiale de la vue. Cette année, la célébration est placée sous le thème « Promouvoir la santé oculaire des enfants ». À cet effet, le Programme national de lutte contre la cécité organise depuis ce matin des consultations gratuites d'ophtalmologie à l'esplanade du Musée national de Yaoundé. Hommes, femmes, jeunes et personnes âgées souffrant de troubles visuels ont répondu présents à ce rendez-vous. Voici le reportage de Rose Coco.
L'esplanade du musée national de Yaoundé, transformée en centre d'ophtalmologie pour la journée. Depuis ce matin, les patients affluent pour bénéficier de consultations gratuites. Certains ont des problèmes de vue et d'autres des douleurs oculaires insupportables.
Quand j'ouvre les yeux, je vois flou. Je regarde la télé beaucoup, ça rougit comme quand on va verser le sable.
Ça fait quand même plus d'une dizaine d'années. J'ai ces difficultés à lire à distance.
Ici, les équipes médicales examinent chaque patient avec soin pour déterminer les meilleurs traitements. Yannick Bilon, professeur d'ophtalmologie.
Les principales affections oculaires sont les vices de refraction. L'image ne se forme pas bien dans les yeux. Après cela, les pathologies inflammatoires de la surface de l'œil, notamment les conjonctivites. De manière plus grave, le glaucome, la cataracte.
Le plateau technique est relevé.
Nous avons déployé toute une unité de base pour une consultation ophtalmologique. Nous pouvons faire la refraction, analyser comment la lumière se forme dans les yeux, nous pouvons regarder la partie antérieure et l'intérieur de l'œil pour voir s'il n'y a pas une pathologie au sein de la rétine et du nerf optique.
Près de 1000 patients sont attendus pour cette opération qui vise à améliorer la vue des personnes souffrant de troubles visuels.
Cette année, l'accent est mis sur la situation ophtalmologique de l'enfant qui a longtemps été mise en veilleuse. Sur l'intérêt que la communauté médicale accorde désormais à l'enfant, je vous propose d'écouter les explications du professeur André Ogba-Ebalé. Il est ophtalmologiste, secrétaire permanent du programme de lutte contre la cécité. Il est au micro de Liliane Mouvungu.
Le thème de cette année, priorité à la santé oculaire de l'enfant, parce qu'on s'est rendu compte que, au plan mondial, le sujet adulte, le sujet âgé, ils ont été pris en charge, ces deux sujets. Mais l'enfant, qu'en est-il? On s'est rendu compte qu'il y a, entre guillemets, tout petit peu lésé, et c'est maintenant que nous renforçons donc la lutte contre la cécité chez l'enfant, les soins oculaires chez l'enfant, en mettant sur pied la promotion des soins oculaires primaires. Ça veut dire que nous allons éviter la cécité chez l'enfant dès l'accouchement, ou même dès la grossesse, et nous allons également dépister les affections oculaires chez l'enfant, même à l'école. Ça veut dire partout où l'enfant se trouve, il faudrait qu'il ait les soins oculaires équitables. Et surtout, n'oubliez pas, l'enfant, c'est notre avenir. L'enfant, c'est notre espoir. C'est l'espoir de toute une nation. Il est prioritaire.
La situation de la variole du singe au Cameroun est sous surveillance, même si des cas continuent d'être signalés, soulevant des préoccupations sanitaires. Les mesures prises par le gouvernement visent à contenir la propagation de l'épidémie, mais il est important que les populations, elles aussi, restent en alerte et adoptent des comportements préventifs. Saint-Homme et mesures de prévention du Mpox, c'est à découvrir dans ce reportage de Juleika Oumarou Aliou.
Le monkeypox, une maladie zoonotique qui se transmet de l'animal à l'homme via les rongeurs forestiers. Pour freiner sa propagation, les professionnels de santé préconisent d'adopter des comportements préventifs. Dr Linda Esso, sous-directeur de la lutte contre les maladies et les épidémies au ministère de la Santé publique.
Éviter les contacts avec les animaux de brousse sans protection, éviter les contacts rapprochés avec les personnes connues avoir la maladie, y compris les rapports sexuels. Se laver les mains régulièrement.
Rester vigilant face aux signes d'alerte est crucial et c'est chacun qui doit surveiller l'apparition d'un certain nombre de symptômes.
La fièvre, des douleurs articulaires, des céphalées accompagnées par une adénopathie, gonflement des ganglions, une éruption cutanée qui est souvent généralisée et préfère les extrémités des membres, c'est-à-dire les paumes des mains, les paumes des pieds.
Il n'existe pas de traitement antiviral spécifique contre la variole du singe en ce moment. La prise en charge reste symptomatique. Docteur Linda Esso.
On traite les symptômes, la fièvre, les douleurs, à prendre soin des lésions cutanées avec des anti-allergiques, mais également par la désinfection des lésions qui voudraient se surinfecter.
L'éradication de la variole du singe est un défi pour le Cameroun. La situation actuelle témoigne de l'efficacité des interventions menées. La vigilance demeure donc essentielle pour prévenir toute résurgence.
La 28e édition du festival Écran Noir se tiendra du 19 au 26 octobre prochain sous le thème Intelligence artificielle et cinéma africain. Ces informations et bien d'autres sont rendues publiques en ce moment à l'occasion d'une conférence de presse tenue à la maison de la radio à Yaoundé. Il est question pour les organisateurs, à l'occasion de ce coup d'envoi, de présenter les grandes lignes et les innovations de cet événement qui va réunir les acteurs du cinéma africain. Dans le cadre des missions statutaires d'accompagnement et de suivi des œuvres cinématographiques dévolues à son département ministériel, le ministre des Arts et de la Culture informe l'opinion publique nationale que le film documentaire intitulé « Paul Biya, un grand homme d'État au destin prodigieux » sera diffusé le samedi 12 octobre dès 14h à la place des fêtes de Rumdéadjia à Garoua dans la région du Nord. Ce film documentaire retrace la vie et le parcours de son excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun. La supervision technique de cette production est assurée par le cabinet civil de la présidence de la République et la coordination technique du ministère des Arts et de la Culture. La projection de Garoua intervient après le succès retentissant des étapes de Bertois, Douala, Maroua, Bafoussam et Bouya. Le ministre des Arts et de la Culture compte sur l'hospitalité légendaire des populations de la région du Nord pour réserver un accueil chaleureux à cette projection. C'est signé Bidoumpat, le ministre des Arts et de la Culture. « J'annonce à la fin de cette édition des nominations de responsables dans les services déconcentrés du ministère des Enseignements secondaires. Éliminatoire de la CAN Maroc 2025, les hostilités reprennent ce jeudi avec les rencontres de la troisième journée. Le Cap-Vert accueille le Botswana Praia et puis la République démocratique du Congo sera face à la Tanzanie. La Namibie reçoit le Zimbabwe dans le groupe J, celui du Cameroun. Le Cameroun, justement, donne rendez-vous, le Cameroun et le Kenya donnent rendez-vous au public dès 17h ce vendredi au stade Omnisports Amadou Ahidjo de Yaoundé. Et comme de tradition, la séance officielle de reconnaissance de l'ère de jeu et les conférences de presse avant-match sont au programme des deux équipes ce jour. La délégation kenyane est arrivée à Yaoundé en fin de matinée. Les Lions, eux, sont tout simplement prêts à rugir. Samuel Billon.
Le Kenya a choisi la dernière minute pour déposer ses valises à Yaoundé. Les Harambee Stars disent être venus surprendre les Lions à domicile. Un avertissement sous cap de l'entraîneur turc Engin Firat, qui veut qualifier le Kenya à sa 7e phase finale de Coupe d'Afrique. John Aviri, attaquant de 27 ans du club égyptien, Misrel Makassa et le milieu terrain de 30 ans Duke Abuya, sociétaire du club tanzanien African Sport Club, tous deux buteurs en septembre contre la Namibie, sont les principales armes offensives du Kenya. Les Lions ont de quoi faire un match correct. Christopher Wu, Michael Gadu-Gadu, Jean-Charles Castelletto, Enzo Boyomo, du lourd en défense centrale avec Jackson Tchatchoua, remarquable dans l'apport offensif, Carlos Baleba est sur glace, Martin Ongla, Zambo Anguissa pour aspirer le milieu de terrain, les percussions de Brian Bemo, Christian Bassogok ou encore l'expérience et l'efficacité de Vincent Aboubakar, Franck Magri, Patrick Soko, André Onana, l'ange gardien. Marc Brice est face à l'équation des choix les plus opérants pour tirer davantage le meilleur de son groupe par ces temps si favorables dans et autour de la tanière. Le public se prépare également à la grande communion de ce vendredi soir avec son équipe nationale, une fierté de tous les instants. Le Kenya menace de faire jouer le match retour à huis clos, raison l'admiration sans limite des joueurs camerounais par le public ougandais, ivre de joie face au gardien André Onana, référence à ces scènes de joie débordantes autour du match Zimbabwe-Cameroun à Kampala en septembre.
C'est pour la 6e fois de l'histoire que le Kenya va affronter ce vendredi le Cameroun sur un terrain de football. Avec 3 défaites et 2 nuls, les Harambee Stars n'ont jamais réussi jusqu'ici l'exploit de dompter les quintuples champions d'Afrique gonflés à bloc. Angène Farah et ses hommes ont à cœur de briser le signe indien ce vendredi à Yaoundé. Charles Abosoloba.
Après un match nul de 0 but partout contre le Zimbabwe lors de la première journée, les Harambee Stars ont su rebondir en dominant la Namibie 2-1 lors de leur deuxième sortie. Une montée en puissance que le coach Engin Farah veut maintenir en créant la surprise face aux hommes de Marc Brice.
Dans ce groupe, tout le monde se bat pour rester dans la course, y compris le Cameroun. Le jeu reste donc ouvert. Il est juste important pour nous d'être prêts mentalement et de rester soudés.
Le technicien turc monte à l'assaut avec des armes supplémentaires pour animer son 4-4-2 classique, notamment avec le retour du capitaine Michael Lulunga, virevoltant attaquant, blessé lors des deux dernières rencontres.
Ça fait du bien d'être de retour, de représenter le pays une fois encore. Nous avons une équipe solide, prête pour la compétition. Tout le monde connaît l'histoire du Cameroun dans le football, mais nous avons autant de points qu'eux et nous croyons pouvoir tirer le meilleur.
Le Kenya, lors de ses 5 derniers matchs, ses 3 victoires, un nul et une défaite, les Lions indomptables n'ont qu'à bien se tenir face à cette équipe décomplexée, déterminé à ouvrir un nouveau chapitre dans l'histoire des confrontations entre le Cameroun et le Kenya.
En handball, le 45e championnat d'Afrique des clubs champions s'ouvre ce jeudi dans la ville de Yaoundé, de Laayoune au Maroc. L'équipe de FAP Dam est de sortie contre Abidjan Handball Club cet après-midi à 16h. C'est l'un des 6 matchs au programme de cette première journée. Le Cameroun est représenté par 4 clubs à cette compétition. FAP et Friendship dans le tableau messieurs. FAP Dam et Fondation André Nzico chez les dames. Le ministre des Finances, au regard du fort engouement observé ces derniers jours dans la souscription des déclarations, porte à la connaissance des contribuables non professionnels soumis à la déclaration annuelle de l'impôt sur le revenu des personnes physiques que le délai relatif est prorogé au 1er décembre 2024. Aussi, le ministre des Finances félicite-t-il ceux des nombreux contribuables qui, à date, se sont conformés spontanément à cette obligation fiscale. Le ministre des Finances précise en outre que le non-respect de cette obligation déclarative ouvre droit à l'application des sanctions prévues par le livre des procédures fiscales. Afin de faciliter les déclarations des contribuables concernés, des équipes de veille ont été mises en place dans leur centre des impôts de rattachement et au sein de la Direction générale des impôts, ainsi qu'un dispositif d'assistance en ligne, notamment un centre d'appel téléphonique numéro vert gratuit 8200, une plateforme électronique d'assistance helpdesk accessible sur la page d'accueil du site de la Direction générale des impôts www.support.harmonie2.cm, un numéro de messagerie 00237 691 881 881 pour les contribuables résidant à l'étranger. Le ministre des Finances compte sur le civisme fiscal de tous. Vous écoutez le 13h, voici à présent le condensé des nouvelles du jour en anglais. Drusilla Mokosodjuki.
Good afternoon. A national campaign for the sensitization and training of public contracts system stakeholders on the online award of contracts known as Cameroon Online E-Procurement System Collapse Platform is now operational. Launching the campaign today, Nyaunde, the Minister Delegate at the President in Charge of Public Contracts, Ibrahim Taba Mala, expressed government's gratitude to the technical and financial partners for their support in the implementation of the Collapse Platform. President Paul Biya has extended condolences and given encouragement to bereaved families and the injured of yesterday's fatal road accident at Kombe village that left 15 people dead and 10 others wounded. The bearer of the message, Territorial Administration Minister Paul Atanganji, is in Sang Milima at the behest of the head of state to get first-hand appraisal of the situation. He is accompanied by the Minister of Finance, Louis-Paul Motazé, elite of Jan Lobon. The two members of government are currently attending a mass in honor of the victims. The National Observatory on Climate Change predicts continued heavy rainfall in the second decade of October 2024 in most parts of Cameroon. These weather conditions are expected to bring significant risks, including severe flooding, infrastructure damage, and landslides in some regions. Residents are advised to heed to weather warnings and take precautionary measures to safeguard lives and property as the rains intensify. Inhabitants of Yaoundé are receiving free eye consultations on the premises of the National Museum as part of activities to commemorate World Sight Day. Ophthalmologists from across the country are using the campaign to detect and treat sight-related problems, predominantly in children. The specialists are also screening for cataract, glaucoma, and age-related degenerations while sensitizing on good sight habits. And in sports, coaches and some players of the men's national football teams of Kenya and Cameroon will grant pre-match press conferences before reconnaissance sessions at the Amadou Ahidjo Stadium later today, ahead of their Day 3 2025 Africa Cup of Nations qualifier in Group J tomorrow in Yaoundé. Both sides are currently leading on the standings in the group with 4 points each after the last 2 days of play, and the winner tomorrow will take a striking distance of securing a spot in the final phase of the AFCON in Morocco next year. These and more at 3 p.m.
À présent, cet arrêté portant nomination d'un responsable au ministère des Forêts et de la Faune est à compter de la date de signature du présent arrêté, nommé au poste ci-après du ministère des Forêts et de la Faune, secrétariat général, direction des affaires générales, sous-direction des personnels de la solde et des pensions, services de l'action sociale. Chef de service, Madame Zobo et Lundu Nicole, cadre contractuel d'administration, précédemment chef de bureau du personnel non fonctionnaire en remplacement de Madame Bialou, née Ambani Atangananadej, Dorothée, admise en stage. C'est signé le ministre des Forêts et de la Faune, Jules Doré Ndongo. Cet arrêté portant nomination de responsable dans les services déconcentrés du ministère des enseignements secondaires sont à compter de la date de signature du présent arrêté nommé au poste ci-après dans les services déconcentrés du ministère des enseignements secondaires. Délégation régionale des enseignements secondaires du centre, délégation départementale de la Moufouyakono, lycée bilingue de Mbankomo. Proviseur, Madame Ngolé 3, née Ndedi Lovette, Catherine Désiré, professeur de lycée d'enseignement secondaire général, précédemment proviseur du lycée bilingue de Mimbouman, à remplacement de Madame Ntolo Hermine Marlise, délégation départementale du Nfundi, lycée bilingue de Mimbouman, proviseur Madame Kananadia Fideli, professeur de lycée d'enseignement secondaire général, précédemment en service à la délégation départementale des enseignements secondaires du Mungo, à remplacement de Madame Ngolé 3, née Ndedi Lovette, Catherine Désiré Muté. Délégation départementale du Nyon-Ekélé, lycée bilingue de Minka, proviseur Monsieur Gouet Bi Oum, Christian Bernard, professeur des lycées d'enseignement secondaire général, précédemment censeur au lycée de Matombe, en remplacement de Monsieur Maïmoun Mama, lycée technique de Missé, proviseur Monsieur Mbous Ndjok, Jacques Yves, professeur des lycées d'enseignement technique et professionnel, précédemment en service dans le dit établissement. Délégation régionale des enseignements secondaires de l'extrême nord, délégation départementale du Mayokani, lycée bilingue de Moutouroua, proviseur Monsieur Garba Taou, professeur des lycées d'enseignement secondaire général, précédemment censeur au lycée classique et moderne de Kaélé, à remplacement de Monsieur Dansala. Délégation régionale des enseignements secondaires du Nord, délégation départementale du Mayoré, lycée de la Boune, proviseur Monsieur Adama Moussa, professeur des lycées d'enseignement secondaire général, précédemment en service dans le dit établissement. Délégation régionale des enseignements secondaires du Nord-Ouest, délégation départementale du Ngok et Tundja, lycée bilingue de Mbengkong, proviseur Monsieur Tata Augustine, professeur des lycées d'enseignement secondaire général, précédemment en service dans le dit établissement. C'est signé le ministre des enseignements secondaires Nalou Valionga. La suite de ces nominations dans notre édition du 17-18. Les décades se suivent et se ressemblent. Ce mois d'octobre au Cameroun, pluie, inondations, éboulements sont le lot quotidien de la plupart des régions. Une résultante du réchauffement planétaire qui fait de 2024 l'année de tous les extrêmes climatiques depuis plus de 100 ans. Et puis, la vue, c'est la vie, a-t-on coutume de dire. Les yeux, organes parmi les plus importants du corps humain, nous protègent mieux du danger. Ils sont donc célébrés ce 10 octobre, journée mondiale de la vue. Une campagne de dépistage et de sensibilisation s'ouvre dès ce jour jusqu'au 19 octobre. 13h36 à Yaoundé, c'est la fin de cette édition. Mesdames, Messieurs, je vous souhaite de passer un excellent après-midi.